Il s'enfuit. Ça s'en vient. Bon. OK. J'ai essayé de mettre ça plus contrastant, noir sur blanc en place. Ça devrait être plus facile à lire que blanc sur foncé. Donc, il reste du monde? Ils se sont cachés. Alors, je regardais pour des sujets pour ce matin, et puis je me suis posé la question, si je faisais une recherche sur ChatGPT ou quelque chose, c'était quoi les sujets qui seraient le plus prêchés? Et je me suis dit, probablement la foi et l'amour. Et j'arrêtais là. Je me suis dit, l'amour, ça serait peut-être un bon sujet. Pourquoi? Ben, Stéphane en a parlé la semaine passée, entre autres. On est en train de refaire le site. Et là, on veut mettre l'emphase sur amour et espoir, qui sont le nom de l'Église. Et il a parlé un petit peu, justement, la semaine passée de l'espoir. Fait que je me suis dit, bon, c'est une bonne chose de parler de l'amour. Ça va avec. Pas facile, par exemple, de parler de l'amour, parce que c'est un sujet très, très, très vaste qu'on peut parler pendant plusieurs semaines, de un. Mais de deux, ça travaille des fois un petit peu, hein. Je me sens pas, j'imagine ça même affaire pour Stéphane des fois, mais je sens pas des fois que je suis la personne pour parler de ce sujet-là. Quand on a toujours de la difficulté dans notre quotidien, des fois, à le manifester de la bonne façon. Mais, pas grâce pour moi qui va parler, c'est avec la parole. Donc, on va y aller avec ça. Et l'amour, ben, j'essayais de penser aussi à un sujet pour 2026, parce qu'on est encore début d'année, mais... Si vous savez pas quelle résolution prendre, là, chaque année, vous pouvez prendre d'aimer plus. C'est toujours une bonne résolution, hein. On n'a jamais fini d'aimer. On n'aime jamais assez. Donc, c'est toujours une bonne résolution pour l'année. Donc, comme je vous disais, l'amour, c'est un sujet très large. On peut le prendre sur plein d'aspects différents. D'ailleurs, le premier aspect, c'est quoi? Ben, oups. Il l'a fait un petit peu trop de coups. Oh. OK. Dieu est amour. Je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. Je ne lis pas mes notes, ça paraît, hein? Dieu est amour. Définition même de Dieu. Dieu est amour. Je suis. On veut passer à l'amour. On veut passer à qu'est-ce que ça veut dire, comment aimer, quoi que ce soit. On regarde à Dieu, on regarde à Jésus quand il était sur la terre. On a la réponse. On n'a pas besoin de chercher bien longtemps pour des exemples. C'était, il vivait l'amour. Dieu est égal à amour. Amour, c'est plus que Dieu. Il y a plusieurs aspects. Mais si on veut une définition d'amour, c'est déjà complet si on regarde ça. Dieu lui-même est amour. Fait que c'est un aspect que j'aurais pu parler, mais c'est pas celui-là que je vais parler. Ce que j'ai sauté, c'est qu'il y a plusieurs variantes du mot « amour », et là, je me suis concentré sur le Nouveau Testament, je n'ai pas regardé l'Ancien, principalement un mot dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en grec, dans le fond, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, il y a trois mots, principalement pour l'amour. Donc, le premier, c'est « eros », c'est l'amour physique, l'amour entre conjoints, et ce mot-là n'apparaît pas dans la Bible. Pas que la Bible est contre ça, mais bon... Ça fait pas partie du sujet du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on aurait peut-être dans le Cantique des Cantiques, mais dans le Nouveau Testament, il se trouve pas. Le deuxième mot, c'est Philadelphia, pour l'amour, et ou Philéo, donc vous avez peut-être entendu Philéo, mais Philéo, c'est aimer, Philadelphia, c'est amour. Donc, c'est les mêmes mots, dans le fond, synonymes, un de l'autre. Et ça, c'est l'amour ou l'amitié fraternelle. Hein, Philadelphie, on l'appelle la ville de l'amour fraternel, ben, parce que ça vient de, justement, ce mot-là. Donc, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel entre frères et sœurs, il y a quelques variantes de ce mot-là, quand on parle, exemple, de l'amour de l'argent, des choses comme ça, c'est pas tout à fait ce mot-là, c'est une variante, mais c'est la même racine. C'est un mot de la même famille, si on peut dire. OK? Et le troisième, qui est celui qu'on parle plus souvent, agapao, pour aimer, ou agapé, pour le mot amour. Donc ça, c'est l'amour suprême. Quand on parle de l'amour de Dieu, quand on parle de l'amour entre conjoints, l'amour même plus élevé entre frères, c'est le mot qui est utilisé. En fait, dans le Nouveau Testament, c'est celui-là qui est le plus utilisé. Fait que parfois, Paul va parler de faire des salutations fraternelles, des choses comme ça. Il va utiliser phileo. Mais la plupart du temps, c'est toujours agapé. Donc, quand on nous exhorte, Jésus, c'est toujours le mot qu'il utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, à part à deux endroits. Un, quand il demande à Pierre pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Là, il change de mot puis il utilise phileo. Puis, à un moment donné, il parle que le Père m'aime. Il va utiliser ce mot-là plutôt qu'agapé à une reprise. Mais le reste du temps, c'est toujours agapé. Puis, comme je vous dis, même Paul, la plupart du temps, c'est agapé qu'il va utiliser aussi. Donc, l'amour parfait, l'amour le plus grand. Et bien sûr, c'est cette annulée-là que je vais prendre. Et on va se concentrer sur un passage, celui qui est considéré comme le passage par excellence. Vous savez de quoi je parle, hein? On l'a appelé l'hymne à l'amour, puis c'est pas celui d'Édith Piaf, non? 1 Corinthiens 13. Il y a assez de matériel, là, je pense, pour un bon petit bout. J'ai dit à ma femme hier, j'ai dit, je fais même pas tout le chapitre au complet, puis j'ai 10 pages. Elle dit, pourtant, c'est un chapitre court. Vous le gardez dans votre Bible, ça fait partie des chapitres assez courts. Fait qu'on peut dire beaucoup de choses, puis je n'ai même pas tout dit. Je me limite, parce qu'on pourrait en dire long. Je vais comparer des versions, vous allez voir, tout au long, parce que j'aime ça la façon que c'est phrasé dans d'autres versions, une fois de temps en temps. Alors, ce que j'ai ici, quand vous voyez NEG, en passant, c'est la nouvelle édition de Genève. Donc, la Louis II, mais révisée en 79. Donc, ce qu'on a d'habitude, c'est la seconde 1910, fait que lui utilise la charité, mais c'est le même mot qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au premier verset? L'apôtre Paul, bien sûr, qui parle aux Corinthiens. « Quand je parlerai, un conditionnel ici, hein, quand je parlerai, ou quand bien même je parlerai dans d'autres versions, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, Paul, il n'est pas en train de dire ici, puis ça, j'ai entendu ça, cette doctrine-là, à quelques reprises, hein? Il n'est pas en train de dire ici qu'il existe une langue des anges. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui en parlent? Ça, c'est un autre sujet. Mais ce n'est pas ce qu'il affirme ici. Il met une condition. Même si je parlerais la langue de toutes les langues des hommes, puis même celle des anges, c'est un conditionnel. Hein? La phrase courante dit « supposons que je parle ». Donc, c'est une hypothèse, une hypothétique. Fait que de dire que, comme j'ai déjà entendu, que le parler en langue, c'est un langage des anges, et puis qu'on prie comme ça parce que seulement Dieu nous comprend, puis probablement les anges aussi, mais que Satan ne nous comprend pas, ça n'a pas de fondement biblique, ça, là. Ceux qui disent ça, je pense qu'ils ont oublié une affaire. Satan, c'est un ange. Fait que si c'est le langage des anges, il le comprend lui aussi. Donc, de donner ça comme argument pour le parler en langue, désolé, c'est un fondement qui n'a pas de base biblique pour moi. Mais c'est pas ça le point important. Et justement, il y en a, en parlant de ces choses-là, on détourne le point principal du passage. Qui est quoi? Si je fais ces choses-là sans amour, je suis comme un airain qui résonne. Un airain, c'est quoi? Morceau de métal, il y en a qui vont le traduire par trompette. Clairon, peu importe. Voyez-le comme ça. Cymbale qui résonne. Hein? Plume, on en voit souvent. Donc, un instrument qui est jusqu'à un certain point vide, un peu. Hein? « Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux jouer de plusieurs instruments. Je peux jouer de la batterie, je peux prendre la guitare à Luc puis jouer de la guitare. T'es pas là le matin, j'aurais pu jouer. Je pourrais prendre le clavier puis jouer. Je vous garantis pas, vous allez reconnaître les gens, par exemple. C'est un peu ça, une cymbale qui résonne, hein? Un son qui est confus, qui est vide de sens. Pour qu'on puisse chanter avec la musique, il faut que la musique suive le rythme. Il faut que tous les instruments jouent ensemble la même chanson. Il faut qu'on sache en jouer aussi, bien sûr. Donc, c'est ça ici, quand il parle que sans amour, on est comme une cymbale qui résonne. Ça fait juste un son confus qui n'a pas de sens, qui n'a pas de but. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi qui joue en avant, entre autres. Il y a d'autres dons, il y a d'autres dons. Il faut que j'en laisse un petit peu à plume. Excusez-moi. Donc, c'est la première image qu'il donne. Verset 2, il donne d'autres images. Quand j'aurai, encore une fois, conditionnel, le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça fait partie des passages comme Jean 3,16 en passant qu'on lit souvent puis qu'on répète souvent, puis tellement souvent que des fois on en perd le sens. On passe vite par-dessus. On lit vite. Ça vaut la peine de le lire comme il faut, hein? Quand j'aurai le don de prophétie, prophétie en passant, contrairement à ce que certains peuvent croire, c'est pas prédire l'avenir. Oui, ça en faisait partie parfois. Parfois, les prophètes prédisaient l'avenir, mais ce n'était pas nécessairement le cas. C'est quoi les prophéties? C'est apporter un message de la part de Dieu. D'autres traductions, français courant, va dire transmettre des messages reçus de Dieu. C'est ce que les prophètes dans l'Ancien Testament faisaient. Il ne faut pas oublier aussi que la parole de Dieu, la Bible en papier, n'existait pas. La parole de vie, une version parole de vie, a dit le don de parler au nom de Dieu. Et la parole vivante, à ne pas confondre avec la parole de vie, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. T'as ça un prophète, un porte-parole. Dieu lui révélait quelque chose et il allait le transmettre au peuple. Donc j'aime cette traduction-là. Parole vivante en passant, qui commence à avoir de l'âge un petit peu quand même, mais bon, c'est une synthèse de 80 versions différentes, anglaise, française et allemande, qui a condensé, puis c'est une version un petit peu plus poétique. Si vous vous posez la question, le chant de Richard Toupin, le Christ de l'origine, d'où est-ce que ça vient? C'est Philippiens 2, mais dans la version parole vivante, littéralement, il l'a juste chanté. C'est un petit peu écrit comme un poème dans cette version-là. Donc, ça vient de là. À distinguer de Parole de vie, qui est une version plus récente en passant, qui est plus en français plus adapté, disons, à aujourd'hui. Donc, c'est ça un prophète, quelqu'un qui apportait un message de la part de Dieu. Et j'espère, je pense que c'est tout ce que les prédicateurs veulent. Quelqu'un qu'on parle, ça soit un message apporté de la part de Dieu. Donc, si j'ai ce don-là, quand même j'aurai ce don-là. La deuxième chose qu'il mentionne, hein, quand même j'aurai la science de tous les mystères. Ah! On aimerait tout ça des fois, hein? Avoir la science de tous les mystères. J'écoute des émissions des fois. Des choses étranges qui se passent ou qui sont inexplicables. Je pense pas des affaires spirituelles, mais triangle des Bermudes ou comment ils ont fait les pyramides d'Égypte ou des choses comme ça. Les mystères, on aimerait ça qu'avoir cette connaissance-là. Mais plus que ça, les mystères dans la Bible, c'est des choses qui étaient cachées avant, souvent sont révélées. Avoir la science de tous les mystères. Qu'est-ce que les passages veulent dire? Il y a des passages, des fois, qui sont un peu plus obscurs, qu'on se pose des questions. Hein? Tout connaître ces passages-là. Connaître tout, qu'est-ce que veut dire l'Apocalypse? Ah! Ce serait le fun, hein? On pourrait avoir cette connaissance-là, toute cette connaissance-là. Et il dit après, la connaissance aussi. Hein? Connaître la Bible par cœur. Serait-tu le fun, hein? Avoir la réponse à tout le monde quand ils viennent nous poser des questions, quand on évangélise, quoi que ce soit. Ils posent des colles, puis oups, on a toujours le verset approprié. Hein? C'est le fun, hein? On pourrait avoir toute cette connaissance-là. Qui n'aimerait pas ça? J'espère qu'il n'y a pas personne qui n'aimerait pas ça. Puis la foi. Non. Toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Hein? Il ne faut pas s'amuser à refaire la géographie partout, là. Mais avoir cette foi-là, qui ne voudrait pas avoir ça aussi? Hein? Hey, si j'avais cette foi-là, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? Des miracles à la tonne. Les gens pourraient venir nous voir pour se faire guérir ou pour voir des miracles. Ils pourraient venir nous voir pour prier pour eux autres, nous demander des requêtes de prière, quoi que ce soit. On aimerait ça que les gens viennent nous voir. On pourrait se faire louanger. Ah. Allez voir un tel, vous avez déjà vu ça, hein? Hey boy! Vous avez déjà vu des annonces, je ne mentionnerai pas le nom, mais allez voir un tel qui va vous parler de Jésus. Qui comme en avant? Ou qu'est-ce qu'on met en avant aussi dans ce contexte-là? Hein? En passant ici, quand on parle de la foi, on ne parle pas de la foi qui sauve. On parle du don de foi. Certains vont interpréter comme étant un exemple pour justement accomplir des miracles, des prières de la foi, des choses comme ça. Donc, c'est un don de la foi. Ce n'est pas la foi du salut. Donc, s'il y en a qui vont dire un jour, ben là, l'amour, parce qu'il dit à un moment donné que l'amour est plus grand que ces choses-là, que l'amour est plus grand que la foi, ça veut dire que Dieu ne peut pas condamner, parce que Dieu est amour. Dieu est au-dessus de ça. Donc, Dieu ne peut pas condamner, parce que l'amour est plus grand que la foi. Mensonge. C'est pas cette foi-là qu'on parle, mais du don de foi, comme je viens de vous mentionner, là. Alors, il ne faut pas se laisser berner par ces choses-là. On parle des manifestations spirituelles, les miracles, des choses de ce genre-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun avec tout ce qu'on vient de dire? Si j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et la connaissance, puis même la foi, où est-ce que je pourrais faire des miracles et tout ça, qu'est-ce qu'il y a de commun tout ça? Le moi. Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Non pas Dieu. Il y en a qui vont parler de Dieu. Mais qu'est-ce qui est vraiment en avant? Ce que je fais. Ce que je peux faire. Ce que Dieu peut faire par moi. Ça passe mieux. Mais j'aime mieux qu'il le fasse par moi, pas par l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit là? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est drôle, hein? Il dit, je ne suis rien. Ici, il dit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale. Ici, il dit, je ne suis rien. Je ne l'ai pas écrit, ça, mais c'est quand même drôle qu'ils prennent ce terme-là. C'est pas je n'ai rien ou ça ne sert à rien, comme il dit ailleurs. C'est vraiment je ne suis rien. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens mettent leur identité dans ça. Dans ce qu'ils font. On fait des miracles, on fait ci, on fait ça. Dieu m'approuve, là je suis quelqu'un. Et pourtant, je ne suis rien si ce n'est pas dans l'amour. J'ai vu, et vous en avez vu aussi, malheureusement, certainement, beaucoup de gens axer leur foi, axer toutes ces choses sur ces manifestations-là, et trop souvent, malheureusement, dénigré si un autre à côté ne l'avait pas. Oubliant d'autres passages qui parlent que chacun a des dons différents. Il garde de haut, il dénigre ceux qui n'en ont pas. Je vais vous donner un exemple, que je nommerai pas la personne, mais un exemple. Une fille que je connaissais, il y a bien des années, jouait dans un groupe de musique chrétienne. Mais, façon de penser différente peut-être un peu, en tout cas, elle avait de la difficulté avec la cigarette, elle avait de la difficulté avec le blasphème, puis différentes petites choses comme ça. Mais, elle était spirituelle, beaucoup plus spirituelle que moi. Et elle me l'a noté à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé en langue, pas moi. Si ces manifestations-là deviennent un critère de jugement, un critère de jugement de la vie spirituelle de soi ou des autres, un critère de la proximité de Dieu, elle n'est pas compris. Vous n'avez pas compris c'est quoi les dons de l'esprit ou ces choses-là. Hein? C'est pas... comment dirais-je, une mesure, je pense que c'est le bon terme, une mesure pour mesurer, ça fait peut-être bizarre à dire, là, mais un instrument pour mesurer le degré de foi ou des choses comme ça. Les dons, il en parle au chapitre 12 d'ailleurs, ils sont distribués à chacun comme Dieu le veut. C'est ça qui est la base. Il faut faire attention à ceux qui servent de ces signes-là pour juger les autres, juger leur niveau de spiritualité. Et ça me faisait penser, justement, à quelque chose dans le Nouveau Testament. Jésus s'adresse à deux groupes. Il parle des pharisiens, puis il dit qu'ils vont les reconnaître à leurs fruits. Quand il dit qu'on reconnaît à leurs fruits, c'est pas de ça qu'il parle, c'est pas nécessairement des œuvres. C'est du comportement, c'est dans leur vie, dans leur quotidien. C'est pas, ah, à un moment donné, il a fait une chose. J'ai vu quelqu'un, à un moment donné, faire un miracle, puis je le crois vraiment que c'est un miracle. La personne, c'était peut-être pas la plus recommandable dans l'Église. Comment ça se fait que Dieu s'en est servi? Parce que c'est Dieu qui décide de qui il sert, puis de comment il se sert. Et c'est pas sujet de glorification pour personne. Ça doit pas en être un, en tout cas. C'est Dieu qui agit dans ceux qui sont disponibles. Qui se rendent disponibles, je devrais dire. Pas dans les manifestations spontanées émotionnelles, comme j'ai dit ici. OK, le passage à la cité, c'est plus loin, je l'ai dit. Je ne mélangerai pas les choses. Troisième verset. Et quand je distribuerai, encore une fois en conditionnel, c'est un hypothétique, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Le premier, il parle de ce qu'on est. Hein? On vient ici. Un petit peu ce qu'on fait, mais c'est extérieur, c'est plus futile, si on peut dire. Ici, on parle vraiment des dons de l'Esprit qui sont manifestés dans l'Église. Verset 3, le bien. On fait du bien. Je distribue tous mes biens, toutes mes possessions pour la nourriture des pauvres. D'autres vont le traduire de façon un petit peu comme si je vendais toutes mes choses pour, pas nécessairement que je donne mes choses, mais je vends mes choses pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture aux pauvres. Peu importe. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. En d'autres termes, me sacrifier moi-même. Si je n'ai pas de l'amour, cela ne me sert à rien. Wow! Si ça, c'est pas des marques d'amour puis d'altruisme, de donner tous ses biens aux pauvres, de même être prêt à mourir, être brûlé pour eux autres, pour les gens, il y a un problème, là. On pourrait se poser cette question-là, hein? Ça marche pas, là. Attends. Il a fait telle chose, exemple, donner ses biens aux pauvres, l'exemple que Paul donne, bien plus que tu ne feras jamais dans ta vie, puis pourtant, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Gros point d'interrogation. Attention. Premièrement, il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Jonas n'a pas été dans une baleine, en passant. Le folklore rajoute des choses que la Bible ne dit pas, des fois. C'est pas écrit, si tu fais du bien, ce n'est rien. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce qui est écrit? Cela ne me sert à rien. Ne me sert à rien. Pas sert à rien aux autres, ne me sert à rien. Pourquoi? Bien, de quoi qu'il parle ici? Faire du bien, c'est bon. Toujours bon. Que ce soit pour soi, pour les autres autour, pour le prochain, comme on dit. Hein? C'est toujours bon. Mais, ça n'a aucun effet devant Dieu, ça n'a aucun effet pour mon salut. Ça ne sera jamais un critère de jugement quand je vais arriver devant Dieu, est-ce que j'ai fait du bien ou pas. C'est ce qu'on a fait de Jésus-Christ qui est le critère. Donc, si je fais toutes ces choses-là, mais je ne le fais pas par amour, ça ne sert à rien. On peut poser l'autre question. Attends, là. T'es-tu en train de me dire que l'amour en est un critère pour être sauvé? Autrement dit, je vais être sauvé sur la base que je vais avoir aimé ou pas. Est-ce que c'est ça que je suis en train de dire? Ou que la Bible est en train de dire? Et la réponse que Stéphane aime, oui. Attention. Oui, il vient de dire oui, il y a oui dans oui. C'est pas sur la base qu'on va avoir aimé les autres. C'est pas sur la base qu'on va avoir fait beaucoup d'actions ou qu'on va avoir aimé notre prochain. Même si c'est tout notre prochain, tout le monde entier est inclus dans ça. C'est pas sur cette base-là. Par contre, sur la base qu'on aimait Dieu, qu'on aimait Jésus, oui. Attends un petit peu, c'est pas par la foi? Oui, c'est par la foi. Mais est-ce qu'on peut ne pas croire à celui qu'on aime? Ça va, c'est mal. Est-ce qu'on ne peut ne pas aimer Dieu, Jésus, si on a foi en lui? Pas vraiment non plus. Hein? Si on a vraiment foi. Parce que si on a foi en Jésus, mais qu'on ne l'aime pas, bon, on fait comme dans Jacques, on fait comme les démons. On croit puis on tremble. C'est pour ça que Jacques parle des œuvres, mais ça découle de l'amour. Donc, oui, on n'est pas sauvé par l'amour qu'on a envers soi ou envers les autres, mais on est sauvé par l'amour qu'on a en Jésus, dans ce sens-là. D'ailleurs, Jésus en parle, hein? C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et par la suite, ton prochain comme toi-même. Il y a une pause entre les deux, point virgule en français, hein, ça marque une pause. Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Y a-t-il des domaines qu'il n'a pas pensé? Je pense pas, hein? Les émotions, l'esprit, la pensée, si vous préférez, la force, que ce soit physique, dans tout ce qu'on peut faire, puis même nos pensées, ça en inclut pas mal tout. Si on aime Dieu avec tout ça, encore une fois, on ne peut pas l'aimer puis pas avoir foi. Ça va ensemble. Et après ça, on va pouvoir aimer notre prochain comme soi-même. Donc, ça, c'est la première chose qui exprime dans ce verset ici, si je reviens un petit peu en arrière. Même si je ferais ces bonnes actions-là, si je n'ai pas l'amour, si je ne le fais pas par amour, cela ne me sert à rien. Donc, la deuxième chose que ça exprime que si ces gestes-là ne sont pas, j'ai utilisé le terme mu, pas tout le monde, nous savent tout ce que ça veut dire, là. C'est pas la vache, là. Mu, à l'origine de motivé par l'amour. OK? Donc, si ces gestes-là ne sont pas motivés par l'amour, ne sont pas, c'est pas l'amour qui est à l'origine des autres, ça ne sert à rien. Alors, pose la question. Si c'est pas par l'amour, par quoi d'autre que ça peut être motivé? Si je vous pose la question, je sais que ça ne sera pas enregistré pour vous autres, mais je peux répéter. Si ce n'est pas motivé par l'amour, ça peut être motivé par quoi? Comment? Des intérêts? Le banquier, non, non. Hein? Nos intérêts? L'orgueil? Ce que ça m'apporte à moi? Ça peut être motivé par ça. Bien, c'est motivé par ça, dans le fond, si ce n'est pas par l'amour. Hein? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre par quoi ça peut être motivé. L'orgueil, le désir d'être en avant que j'ai écrit ici, le désir de se faire voir et de se faire louanger, hein? De se faire envoyer des fleurs, pas au sens littéral, mais au sens figuré, etc. Ça aussi, malheureusement, j'en ai connu amplement, peut-être vous autres aussi. Et c'est là le passage que je voulais parler de Jésus tout à l'heure. Aux pharisiens, il s'adresse à un autre passage aux scribes. Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens qui veulent se faire voir, excusez, qui font de longues prières pour se faire voir, hein? Portent même des phylactères, des longues franges avec les versets après et tout ça, pour se faire voir. Leur but, c'est pas pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu. C'est pour se faire voir. Donc, Jésus leur adresse un reproche là-dessus. Même chose plus loin, dans Luc. Il parle aux scribes, hein, qui veulent quoi? Ils veulent avoir la première place. Pourquoi encore? Bien, pour se faire connaître, pour avoir un honneur. Alors, si c'est ce que vous cherchez, en faisant ces actions-là, bien, ce que Paul dit ici, ça sert à rien. Ça ne sert à rien à toi, en tout cas. C'est exactement la même racine, dans le sens que les deux, ils ont le même point de départ, l'orgueil, l'intérêt personnel. J'aime les autres traductions de ce verset-là. J'en ai écrit quelques-unes. OK, voilà, je suis en arrière trop. Hein? OK. La semeur. Elle dit, mais si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Ça, j'aimais ça qu'elle rajoute ça. Parce que c'est souvent ça le but, comme je vous disais tout à l'heure. Au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Parole vivante. Un peu plus long, comme je vous l'ai dit, d'une façon poétique. Ils ont rassemblé toutes les idées de plusieurs versions, de plusieurs traductions. Quand je me dépouillerai, hein, tout enlevé, de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. J'aime l'idée qu'il rajoute « brûler pour mes convictions ». Parce que là, si je me fais brûler, brûler pourquoi là? Sacrifier pour les autres, OK. Brûler, c'est une tendance qu'il y avait à cette époque-là. Dans l'Ancien Testament, oui, mais dans le Nouveau Testament, pas vraiment. Donc, à quoi qu'il fait allusion? Donc, j'aime cette idée-là ici, que pourquoi faire brûler pour nos convictions? Est-ce que c'est ça que Paul avait en tête? En tout cas, ça peut être un aspect. Mais j'aime qu'il rajoute ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des convictions très fermes, des convictions très, je dirais pas bibliques, mais en tout cas, il y a vraiment des convictions, mais c'est pas ça qui va les sauver. Ils ont tellement des convictions qu'ils sont prêts à mourir pour, si c'est pas encore une fois par amour, si c'est par entêtement, pour ne pas dire d'autres mots, c'est pas mieux, encore une fois, aux yeux de Dieu. C'est pas pour les bons motifs. C'est juste pour avoir raison. Imaginez-vous, s'ils sont prêts à se faire brûler pour ça, ils sont prêts à vous brûler vous autres aussi, il n'y a pas ça. C'est souvent ce qui arrive dans les arguments. Hein? Ces trois premiers versets-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépeignent trois zones, trois milieux, trois catégories de choses qu'on peut faire ou qu'on peut être, puis si c'est pas motivé par l'amour, que ça sert à rien. Faut pas oublier à qui c'est adressé. Par la bande, s'adresse à nous autres, en tant que chrétiens, mais à l'origine, c'est adressé aux Corinthiens. Corinthiens, en passant, Corinthe, c'est une ville portuaire assez importante à l'époque. C'est un petit peu la Las Vegas de l'époque. Beaucoup de choses se passaient là, beaucoup de vices, entre autres, et tout ça. Et l'Église de Corinthe, selon plusieurs, avait un problème majeur. Bien, quelques problèmes, là, disons. Division, hein? C'est à cette Église-là qui parle que moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Jésus, etc. Donc, des problèmes de division, des problèmes de clique, de secte à l'intérieur de l'Église. Mais aussi, semble-t-il que mettait beaucoup d'emphase justement sur les manifestations extérieures de l'Esprit, que ce soit par la langue, que ce soit la prophétie, que ce soit toutes les autres. Et c'est probablement pour ces raisons-là bien spécifiques que Paul a choisi ces termes-là. Il dit, même si vous auriez tout ça, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Il ne faut pas oublier que le chapitre 13, il est entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Il vient de vous apprendre de quoi ce matin, hein? Chapitre 12, il parle des dons de l'Esprit, en général, du corps de Christ, de l'unité, que les dons doivent servir pour le corps, etc. Que l'Esprit, c'est celui qui distribue à tous comme il veut, hein? Et le chapitre 14, qui parle de quoi? Don de prophétie, don de parler en langue. Et la supériorité du don de prophétie sur celui de parler en langue, en passant. Et le chapitre 13 vient de ces deux-là. Pourquoi? Bien, selon comment plusieurs commentateurs, c'est pas moi qui le dis, comment doit s'exercer les dons? Dans l'amour. Toujours. Donc, c'est ce qu'on exprime ici dans le chapitre 13. Que l'amour doit entourer ces choses-là. Fait que le problème ici, très important, le problème, c'est pas la manifestation des dons. C'est pas les dons de prophétie, les dons de sagesse, c'est pas le don de foi. C'est pas non plus les actions qui sont faites là, hein, donner aux pauvres ces choses-là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les motifs en arrière étaient mauvais. C'était pas l'amour qui les motivait. C'est là le problème. Comme disait Jésus aux pharisiens, hein? Voilà ce qu'il fallait faire sans oublier, sans négliger les autres choses. Donc, ayez l'amour et tout ça va découler après. Les dons de l'Esprit vont découler de ça. Les dons, bien sûr, le bien qu'on fait autour de nous va découler de ça si on a l'amour. Donc, ils ont juste inversé les choses. Hein? En bon québécois, mettre la chevrille devant les bœufs, ils ont inversé les choses. Ils ont fait les actions, mais il n'y avait pas le cœur qui était à l'origine de ceux-là. La fondation n'est pas bonne, qu'est-ce qui arrive? La maison s'écroule. Ils faisaient, les Corinthiens, comme plusieurs font malheureusement aujourd'hui, ils se servent de ces choses-là comme critères de spiritualité, de jugement. Bien souvent, des émotions qui ne durent pas, vous en avez vu aussi. Hein? Tous les dimanches, ils sont prêts à aller en avant, puis se consacrer tout le temps, puis aussitôt qu'ils retournent chez eux, ça recommence. Ça a changé. Donc, les manifestations comme ça, les émotions, je dis pas que ça ne vient pas de Dieu, les émotions, loin de là, mais si ça se limite à ça, ça n'a pas grand valeur. Donc, Paul replace tout ça dans le bon contexte, comme de quoi ça doit être premièrement soumis à l'esprit, deuxièmement motivé, géré par l'amour. On continue. Le verset 4. Et là, il commence à donner des définitions. Et là, on pourrait entrer en détail dans chacun. Je ne le ferai pas. Mais ça donne bien des choses que l'amour est. Premier point, l'amour est patient. Façon, en passant, je fais une petite parenthèse ici, là, mais c'est une façon de s'exprimer. Hein. L'amour est personnifié ici. Ce n'est pas l'amour qui est patient, c'est les gens qui ont l'amour. Mais si tu es motivé par l'amour, tu vas avoir ces choses-là. Donc, si tu as l'amour, si vous préférez le voir comme ça, c'est ce que ça dirait ici aussi. Donc, celui qui manifeste l'amour va être, premièrement, patient. Et j'ai été chercher quelques définitions ici, dans les logiciels, dans le fond, avec la Strong et tout ça, là. Les définitions originales de ces mots-là qui sont dans le grec. Le terme patient ici, ça veut dire un esprit, être d'un esprit persévérant. Ne pas perdre courage. Persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Endurant les épreuves, en d'autres termes. Être patient en supportant offense et injures des autres. Ou être indulgent, en d'autres termes, les injures qui nous sont faites. Les choses qui nous sont faites à nous autres. Être doux et lent à la vengeance. C'est ça aussi être patient. Ne pas se venger soi-même, hein? Que c'est dit ailleurs aussi. Être patient, lent à la colère, lent à punir. Donc, oui, ça termine la patience comme nous autres, on le connaît en français. Là. Être patient, ne pas pogner les nerfs. Mais plus que ça, c'est d'être persévérant, d'être endurant aussi. Endurant dans les épreuves, endurant dans tout ce qui se présente à nous. Donc, il est patient, il est plein de bonté. Plein de bonté ici, définition, se montrer doux. C'est peut-être ça que j'ai de la misère à moi le plus, des fois. Se montrer doux, être aimable, user de bonté, être bon, être serviable. Donc, c'est ça, être plein de bonté. C'est quoi le plus grand amour que Jésus disait, hein? C'était de servir les autres. Quand est-ce qu'il a montré, qu'il a mis le comble à son amour, si vous vous rappelez? Quand il s'est penché, il les a lavé les pieds. Pourquoi? Parce que ça, c'était le geste que les plus bas serviteurs faisaient. Il a mis le comble à son amour en faisant ça, autrement dit, en prenant la place de serviteur. Donc, si être serviable, montrer de la bonté, c'est un geste d'amour. Et ce que le verset 2 parlait, en passant le verset 3, de faire des bonnes choses. Dieu n'a jamais dit qu'il était contre ça. C'est juste que ça doit être motivé par l'amour. Troisième point, l'amour n'est point envieux. Envieux, bon, celle-là, on le connaît un peu plus, hein? Jaloux, bouillir d'envie, de haine ou de colère, ou envier. Hein? Convoiter, que dirait l'Ancien Testament des commandements. Donc, on n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Ou on pourrait dire se glorifie point. Il ne s'enfle point d'orgueil. S'enfler d'orgueil. Savez-vous à quoi ça m'a fait penser quand j'ai lu ça hier? S'enfler d'orgueil. Vous connaissez la fable peut-être de la grenouille et le bœuf? Hein? La grenouille qui a vu le bœuf qui voulait être aussi grosse que lui, puis qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se gonflait, puis oups, tu n'as pas encore assez, elle se gonfle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Pour prendre le terme, elle crève. Dans tous les sens du terme, elle éclate. Quand on se gonfle, hein, on s'enfle, c'est ça qui peut arriver à un moment donné. Éclater. Hein? Quand on s'enfle, qu'on se gonfle, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On embellit la vérité. Hein? On prend des choses des fois qui sont vraies, mais on en rajoute. On en beurre épais en bon québécois. On en met plus que le client demande. Donc, on en rajoute. Ça peut être vrai que je suis bon exemple, mais on en rajoute. On en rajoute. Parfois, en disant la vérité, mais juste pour flasher. C'est ça l'orgueil, hein? Il va s'enfler. Et quand on s'enfle trop souvent, on débarque la vérité, justement. On en rajoute. Ils ne sont pas vrais. Malheureusement. L'amour, elle ne fait pas ça. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Vous remarquez que c'est une virgule ici, pas un point virgule. Donc, les deux vont ensemble. Hein? Ça vanter, s'enfler d'orgueil. Ça va ensemble. Verset 5. C'est toujours l'amour, bien sûr, il ne fait rien de malhonnête. D'autres traductions vont dire d'inconvenant. Donc, rien de croche, quoi. Il ne cherche point son intérêt. On parlait tantôt de, si on faisait ces actions-là, c'était par quoi? Par intérêt? Bien, c'est ça. L'amour, il ne cherche pas son intérêt. Ce n'est pas sa motivation. Il faut faire attention, hein? J'aime le passage, je pense justement dans Corinthiens 12, non, dans Philippiens, en tout cas. Quand il dit que celui, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'aime ce aussi-là. Dieu n'a jamais dit qu'on devait se traiter comme des tapis puis qu'on ne doit pas prendre soin de nous autres ou quoi que ce soit. Il faut considérer aussi ceux des autres. Ici, ce qu'il nous dit, c'est pas qu'on ne doit pas avoir notre intérêt à cœur, c'est qu'on ça doit être ne pas chercher son propre intérêt. Ne pas avoir ça comme motivation. Ne pas mettre en priorité notre intérêt, ce qui veut dire qu'on le place au-dessus des autres. J'avais déjà parlé de ça aussi à un moment donné, justement, quand on se parlait de ce passage-là, chercher ceux des autres. Le but, c'est pas de se mettre au-dessus, mais c'est pas non plus de s'écraser puis se mettre en dessous. C'est qu'on se met égal. Et c'est ça ici. Donc, ne pas chercher son intérêt, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs de la vie ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ça ne doit pas être ça qui nous motive, surtout par rapport aux autres, au-dessus des autres. Parfois plus difficile de nos jours, hein? On a tendance à chercher son intérêt, on a tendance à se faire dire, même dans le bureau du psychologue, « Faut que tu t'aimes, faut que tu prennes soin de toi. » C'est pas de ta faute si t'es comme ça, c'est tes parents. C'est de leur faute, eux autres. Hein? Bon. Je sais pas si on dit encore ça des bureaux, mais bon. On cherche pas son intérêt. Rechercher ici, hein? Ça prend de l'énergie. Ça prend du temps. Donc, c'est pas ça qui est le focus de notre vie, si je peux dire ça comme ça. Rechercher notre intérêt. Rechercher son intérêt, c'est le contraire de l'amour, puis on en a parlé dans les premiers versets, justement. Il ne s'irrite point. Ou, pourrait traduire, ne se met pas en colère. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de tirer là-dessus. Hein? Il s'irrite point, il ne se met pas en colère. Il y a une colère sainte en passant. Jésus l'a eu à un moment donné avec les vendeurs du temple. C'est pas de ça qu'on parle, bien sûr. Il y a toujours des extrêmes, il y a toujours des gens qui vont essayer de chercher des petites mouches et dire « Ah ouais, mais ça! » Non, regarde, on parle de façon générale ici. Je pense que tout le monde est assez capable de réfléchir et de comprendre ce qu'on parle. Donc, il ne s'irrite point, il ne se met pas en colère, il ne soupçonne point le mal. Oh, celle-là aussi, on peut dire beaucoup de choses. Hein? Soupçonner le mal. Elle dit quoi, premièrement, soupçonner? Tu as cherché la définition du Larousse. Soupçonner, il y a plusieurs définitions, mais celle qui nous concerne ici. Attribuer à quelqu'un, sans preuve précise, des actes ou des intentions blâmables ou répréhensibles. Le croire coupable d'après certains indices. Ouch! Attribuer à quelqu'un, rarement à soi, hein? On attribue à quelqu'un d'autre, sans preuve précise. Oh, on est bon dans ça. C'est pas dit qu'on n'a pas de preuve du tout. Des fois, on peut avoir des... Ah, il a déjà fait ça dans le passé. Ah, je pense que, parce que j'ai vu telle affaire. Il peut avoir des bases, parfois très fragiles, mais des bases quand même. Mais on n'a pas des preuves précises. On n'a pas vu le geste. Ou on ne connaît pas les motivations en arrière. Des fois, on peut voir des gestes qu'on pense que, ah, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a d'autres choses en arrière qui fait qu'il agit comme ça, avec des bonnes intentions, pas dans le sens de, ah, c'est des bonnes intentions, ça pardonne tout, là, les intentions qui comptent. Mais des fois, c'est une bonne chose qu'il fait. Mais on a juste vu une partie de l'action. Des actes ou des intentions. On est bon pour mettre des intentions. On met nos intentions mauvaises dans la tête de l'autre. Des actes ou des intentions blâmables ou répréhensibles. On peut reprocher, autrement dit. Le croire coupable d'être d'après certains indices. En d'autres termes, on condamne avant d'avoir toutes les preuves. La définition qu'on a souvent quand on parle de juger quelqu'un. Hein? On est l'avocat puis le juge en même temps. On prend une partie des données, surtout si on a déjà quelque chose avec cette personne-là, on prend une partie des données et on condamne tout de suite sans attendre l'autre partie, sans voir toutes les données. C'est plus facile, c'est plus rapide. On est dans un monde où ce que tout est instantané. Fait que ça aussi, ça va plus vite. Si on condamne, le coupable est trouvé. On peut passer à autre chose. Définition de soupçonner ici. Donc, on peut avoir des indices, on peut avoir des préjugés, mais on condamne rapidement. Puis l'être humain, on est bon pour ça, peut-être plus particulièrement les Québécois, je ne sais pas. Hein? Juger, condamner. Je pense que Stéphane en parlait il n'y a pas si longtemps, justement. Hein? Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il va se tenir debout. Parce que son maître est capable de le relever. Et son maître, ce n'est pas nous autres. C'est Dieu. Mais soupçonner le mal ici va plus loin que ça. Ça, c'est la définition de soupçonner dans la rousse. Mais on peut aller plus loin. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est logosomai. Et ça a l'aspect d'imputer, de soupçonner, comme on vient de dire. Ça, c'est un des aspects, et c'est vrai. Mais il y a un autre sens aussi que j'ai trouvé très spécial. Le sens de compter, calculer, dénombrer. On pourrait dire lire un livre, hein? On écrit tout dedans. Ça vous fait faire ça à quelque chose? Donc, si je fais une traduction libre, ne soupçonne point le mal, on pourrait dire, n'accumule pas les fautes. Hein, on parle de calcul, accumuler, dénombrer, on les calcule une par une. Hein? Donc, n'accumule pas les fautes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Garder rancune. Garder un compte de tout ce qui est fait, tout ce qui nous est fait particulièrement. Hein? Et là, on fait le calcul, et à un moment donné, Le moment donné qu'on trouve approprié, on sort le compte. Chicane de coupe, c'est toujours un bon moment pour ça. On sort le total, on sort le compte, et on rappelle. Tu te rappelles-tu quand tu as fait ça? Moi, je me rappelle. Ça n'a pas pardonné, ça? Oui, mais... Pardon spécial. Bien sûr, ça peut être déformé en chemin. Hein? Tu fais toujours ça. Tu fais jamais ça. On fait des comptes. On tient des comptes. On accumule. Le français courant traduit d'ailleurs cette section-là par « n'éprouve pas de rancune ». Et la parole de vie, elle, il ne se souvient pas du mal. Se souvient pas du mal. Il a oublié. Donc, autrement dit, on parle de pardon. Bon Québécois, encore une fois, il ne ramène pas ça sur le tapis. Vous connaissez cette expression-là, hein? Bon. Le pardon, c'est ce qu'il fait. Il oublie. Quand tu oublies, quand Dieu pardonne, il oublie, ça dit que l'Orient est aussi éloigné de l'Occident. Il oublie nos fautes. Mais il ne les ramène pas plus tard. Mais, c'est écrit qu'on va faire des plus grandes choses, nous autres, on est capables de les ramener. Non, c'était pas ça les plus grandes choses. C'était pas positif, cela. Donc, ne pas soupçonner le mal sur l'autre, croire quand il nous dit quelque chose, même si ce n'est pas quelqu'un qu'on apprécie particulièrement ou qui a un antécédent, jusqu'à preuve du contraire, on peut croire. Mais aussi ne pas accumuler les choses. Lire un livre de comptes. On est des bons comptables. Verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, du mal ou du péché, si vous préférez, mais il se réjouit de la vérité. Les deux contrastent ici. On ne se réjouit pas de l'injustice, on se réjouit de la justice ou de la vérité, si vous préférez. Question. Comment est-ce que quelqu'un pourrait se réjouir de l'injustice? Ça fait assez bizarre, ça fait quasiment cruel là, de dire ça comme ça. Et pourtant, il y en a. De quelle façon? J'en ai noté deux. Il y en a peut-être plus. Deux façons qu'on peut se réjouir de l'injustice. Bien, premièrement, si c'est une personne qui est, j'ai pris le terme, corrompue, qui aime faire le mal, si tu veux voler, si tu veux faire de l'intimidation à l'école ou quoi que ce soit, bien, tu te réjouis de faire le mal, de faire du mal aux autres. Ça peut arriver. Il y a tout un background du pourquoi dans ça. On ne fera pas la psychologie ici. Mais on peut se réjouir de faire le mal parce qu'on fait le mal et c'est ce qu'on veut faire. On ne se pose même pas la question à ce moment-là si c'est de l'amour ou s'il y a de l'amour dans ça. Hein? Je pense que c'est assez évident. Là, on parle du contexte d'amour ici. Donc, la deuxième possibilité, quand est-ce qu'on se réjouit? On se réjouit du malheur des autres, parfois. Personne qu'on n'aime pas trop, ou peut-être que, bon, plus ou moins indifférent, mais comme sa façon d'agir, sa façon de vivre, puis là, il arrive un malheur. Ben bon, le Seigneur, il parle. On se réjouit. Problème à l'école, problème au travail, accident, divorce. Ben bon. On se réjouit de ça. L'amour, il ne se réjouit pas. L'injustice, il ne se réjouit pas de ces choses-là. C'est pas mal l'opposé de se réjouir des malheurs des autres. C'est pas mal d'opposé d'aimer. Hein? À l'opposé de ça, celui qui aime, il se réjouit quand la vérité triomphe. Que dit d'autres versions? Parole vivante ici. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Hein? S'il se place du côté de la vérité, il est toujours sur le bon côté, premièrement. C'est une bonne chose. Puis il se réjouit lorsque la vérité ou la justice a triomphe. Lorsqu'elle gagne. Que ce soit dans les médias, avec tout ce qui se passe ces temps-ci pour les chrétiens ou quoi que ce soit. Mais s'il se réjouit de la vérité, c'est donc qu'en lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'injustice. Parce qu'il ne tolère pas ça. Pas ne pas tolérer dans le sens de partir en guerre contre ça, mais ne tolère pas ça dans sa vie. Le mensonge, l'injustice. Parce qu'il se réjouit de la vérité. Donc, tu ne peux pas te réjouir de la vérité et en même temps garder l'injustice dans ta vie. Ça ne marche pas. Antithèse. Verset 7. L'amour, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Tout répété 4 fois. Excuse tout. Excuse, le terme ici, on peut le traduire par un toit, le toit d'une maison. Hein? Donc, ça a l'aspect de couvrir. Ça sert à quoi un toit? Ça couvre, ça protège. Donc, couvrir les fautes. Quand on les couvre, on ne les voit plus. C'est ce que fait le sang de Jésus puis tout ça. Hein? On parle de couvrir le propitiatoire, ça couvrait, ça couvre les fautes, ça les masque, ça les fait disparaître. Ça garde secret ou caché aussi. Le terme peut vouloir dire ça. Attention. On va faire une coupe d'attention dans les prochains bouts. OK? Excuse tout, couvrir les choses, ne veut pas dire qu'on couvre les abus. Là, je sais que c'est enregistré. Important de le dire. OK? Ça ne veut pas dire que si on voit des injustices autour ou si on subit des injustices, des abus, qu'on doit se taire, se la fermer un bon Québécois, puis endurer. Ce n'est pas ce que ça veut dire. On a parlé ce mardi passé, justement, avec l'Union, de différentes procédures que vous allez entendre parler probablement prochainement. Je vais laisser les autres s'occuper de ça, le conseil et le pasteur. Mais, si on est témoin de choses ou si on vit des choses, il faut dénoncer. Ça, c'est important. Il ne faut pas garder, subir, pas de problème. On est chrétien, on pardonne, on se laisse écraser. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça dit ici, c'est tout simplement que si on subit un tort, hein, si quelqu'un fait un tort, on est témoin de quelque chose, tout ça, de ne pas l'ébruter. Puis là, encore une fois, je ne parle pas des abus extrêmes. Là, je reviens à la normale, là, dans notre quotidien, tous les jours. Si on subit un tort, on ne commence pas à répandre ça partout autour de soi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il m'a fait. Non, on couvre. Donc, encore une fois, comme je dis ici, il y a des circonstances, il faut dénoncer les choses. Surtout des choses illégales, des choses, des abus physiques, des abus spirituels, des abus... D'abus, c'est pas nécessairement physique, hein? Ça peut être moral. Il y a des problèmes, des tortures psychologiques, appelons ça comme ça. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je regarde ma femme des fois parce qu'elle travaille dedans. Je sais pas si c'est des bons termes, la torture psychologique, mais bon. Ces choses-là, il faut les dénoncer aux autorités. C'est une chose obligatoire en tant que citoyen, premièrement, Puis Dieu n'est pas contre ça. Donc, c'est une chose encore plus grande en tant que chrétien. Si on est témoin de ces choses-là, il faut dénoncer. OK? On parle ici de dénoncer des choses graves, pas pour des choses banales, bien sûr. Pas pour des choses qu'on peut passer par-dessus, qu'on peut pardonner. Il y a eu un manquement mineur. On va excuser, comme ça dit ici. Mais pour des choses majeures, on va dénoncer. Je vais parler tout de suite de l'autre partie plus loin, avec le tout. Encore une fois, excuse tout ou supporte tout même. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, de supporter des injustices. J'ai vu, vous avez peut-être vu, dans des églises même. Les églises, comme on disait mardi, c'est un petit peu comme la police militaire, hein? À certains cas. Ce qui se passe dans l'église, l'église va le régler elle-même. Les autres à l'extérieur, la police, le gouvernement, peu importe, n'ont pas d'affaire là-dedans. Ça, c'est ce qu'a fait la police militaire. On ne doit pas agir comme ça. S'il y a des choses illégales qui se produisent, des abus, comme je vous disais, des choses comme ça, il faut dénoncer. C'est un devoir. Il faut le faire. C'est pas, on va garder ça à l'interne, on va régler ça nous autres mêmes, puis on l'a vu dans le passé, nous autres. On va régler ça nous autres mêmes, puis pourquoi? Ben, pas détruire la réputation de l'Église, pas détruire la réputation de Dieu, on n'en parlera pas. Et malheureusement, 9 fois sur 10, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de changement. Ouvre là quelques années, des pasteurs, des fois, disaient ça à des femmes qui se faisaient battre à la maison. Pardonne, en Dieu. Tu vas peut-être amener ton mari au Seigneur, surtout s'il n'est pas chrétien. Non. C'est pour ça que la Bible dit ici. Et c'est certainement pas user d'amour envers les victimes que de fermer les yeux. Bien beau d'user d'amour envers le tortionnaire, si on peut l'appeler comme ça. Il faut user d'amour envers les victimes aussi, la femme, les enfants qui sont pris dans ça. Donc, absolument pas excuser un comportement comme ça puis laisser les choses telles quelles. Si la personne veut s'en sortir, on peut l'accompagner, mais ça ne veut pas dire qu'en attendant, pendant qu'elle est accompagnée, qu'on laisse la situation telle quelle puis on espère que ça va bien aller. Non, il faut intervenir. C'est important. OK? Donc, quand on parle ici ces choses-là, excuse tout, crois tout, espère tout, supporte tout, c'est dans le... Les choses générales de la vie, là, les offenses qui peuvent nous être faites et tout ça, pas dans des cas d'abus comme ça. Important. Alors, si je répète des fois des choses, les tout et tout ça, sachez que ça, c'est des exceptions. Crois tout. Crois tout ici ne veut pas dire, encore une fois, d'être crédule, d'être bonasse. On sait que la personne nous ment, mais on va le croire pareil. On croit tout. Non, il ne faut pas être stupide non plus. C'est pas ce que ça veut dire. OK? Ce que ça veut dire, c'est de ne pas prêter, comme on a dit tout à l'heure, soupçonner le mal, ne pas prêter des mauvaises intentions. Surtout si c'est une personne, des fois, et prier pour elle, cette personne-là, ça arrive en passant, mais si vous portez moins dans votre cœur une personne... Ce n'est pas de prêter des mauvaises intentions de façon procès avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Ah, tout ce qu'elle dit, c'est toujours faux. Elle se plaint tout le temps. Ah, blabla. Jusqu'à preuve du contraire, considérez comme ce qu'elle nous dit, de façon objective, comme étant la vérité. Si un autre moment donné, on a une preuve comme de quoi c'est faux, je ne vous dis pas de continuer à croire que c'est vrai. Mais jusqu'à preuve du contraire, de croire ce qui est dit. En Amérique, contrairement à d'autres pays, en passant, on n'est pas coupable tant qu'on n'a pas été trouvé coupable. Dans d'autres pays, il faut prouver qu'on est innocent. Ici, il faut prouver qu'on est coupable, ou la personne est coupable. Donc, on devrait faire la même chose nous autres aussi. Tant que ce n'est pas prouvé qu'elle est coupable, ne pas la condamner. Il ne faut pas laisser ses propres sentiments envers la personne voiler ce qu'elle dit, voiler les actions ou quoi que ce soit. Prêter des mauvaises attentions, comme j'ai déjà répété. Espérer, espère tout. Souvent, le mot espérance, ici, c'est dans la Bible, c'est relié aux choses de Dieu. Donc, aussi, espérer un salut de Dieu. Donc, il y a probablement cet aspect-là dans le « espère tout ». Et supporte tout, persévérance, endurance, on parlait de patience tout à l'heure, même chose ici. Supporter dans les épreuves, mais le comportement d'autrui envers nous autres aussi. Hein? Si quelqu'un a le sujet de se plaindre à un autre, qu'est-ce que ça dit? Supportez-vous les uns les autres. Pas supporter dans le sens d'endurer, mais de se supporter les fardeaux. Au lieu de se plaindre d'une personne qui a de la difficulté puis qui fait ça, si on prie pour cette personne-là, si on va l'aider, ça va changer totalement notre façon de voir la situation ou la personne. Probablement une meilleure façon d'agir que de condamner. Démontrer qu'on est des disciples de Jésus. C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il disait Jésus? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous connaissez ma parole par cœur, si vous allez à l'église, ou quoi que ce soit, hein? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas la partie la plus facile, hein? Commandement, c'est tellement simple, la Bible. Aime Dieu, aime ton prochain. Facile! Plus difficile à mettre en pratique. Quand on sait tout ce que ça implique. Je ne reviendrai pas sur ça parce que j'en ai parlé. D'autres traductions ici que j'ai mis. La semeur. En toute occasion, je vais résumer le tout pour à cette place-là ici, il ne l'a pas répété à chacun. En toute occasion, il faut savoir que la semeur, c'est une traduction en passant qui est plus rend le sens et non pas le littéral. Donc, le littéral, c'est que dans l'original, c'est vraiment répété quatre fois. Ici, on rend plus le sens. Donc, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. La français courant, qui aime, supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et la parole vivante, vous voyez, c'est beaucoup plus long, mais très riche, ce verset-là dans la parole vivante. L'amour couvre tout. Je parlais tout à l'heure que, excusez, c'est dans le sens de couvrir, hein? Ben, c'est ce qui rend ici. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Encore une fois, pas de la façon extrême, comme je vous disais. Mais pardonner, c'est toujours une part de souffrance, c'est d'accepter le mal que l'autre a fait. Donc, souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Passer par-dessus. Passant, c'est dans le sens de la Pâque, la Passover. Quand ils ont passé par-dessus la maison des Israélites. Dans Exode 12. Donc, il passe par-dessus les fautes d'autrui aussi. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui ou elle. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. C'est un peu poétique, mais c'est beau, c'est complet, c'est large. Il termine par la suite, je vais terminer là en tout cas, avec verset 8, « L'amour ne périt jamais », et là il compare avec d'autres éléments. Et le chapitre se termine sur ceci, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que la plus grande, c'est l'amour? Pourquoi est-ce que même au-dessus de la foi? Puis là, encore une fois, on ne parle pas de la foi de ce qui sauve. On parlait de la foi, des miracles et des dons et tout ça. Pourquoi est-ce que l'amour est plus grand que ces choses-là? Bien, parce que premièrement, l'amour est à l'origine de tout. Si Dieu nous a créés, c'est par amour. Si Jésus-Christ est venu sur la croix, il est venu sur la terre, puis après ça, sur la croix pour nous sauver, c'est par amour. Sans amour, il n'aurait pas fait tout ça. Mais plus loin que ça, un jour, je l'espère pour chacun, on va être dans sa présence. Et dans sa présence, on n'aura plus besoin de foi. On va le voir, on va être face à face. On n'aura plus besoin de manifestations spirituelles, de miracles, quoi que ce soit. Tout va être parfait. Mais on va avoir encore l'amour. On va vivre entouré d'amour avec Dieu, avec les autres. Fait que l'amour, elle va rester. L'amour ne périt jamais, elle. Les autres choses vont disparaître un jour, mais pas l'amour. Donc, c'est une des raisons pourquoi que l'amour est plus grand que le reste. Vous voulez savoir quoi demander? Noël est passé, mais c'est pas grave, vous pouvez demander à Dieu tout le temps. Avoir plus d'amour. Jacques parle de sagesse, on peut demander de la sagesse. Quand vous aurez assez d'amour, ça peut être long. On va aller un petit peu plus en détail, revenir sur ces choses-là, mais aussi, je vous encourage à être là mercredi. On va revenir sur ces choses-là, on va aller en détail sur certains éléments, mais j'aimerais ça aussi lire au complet le passage dans la version Parole vivante. Vous allez voir, il y a des richesses là. J'ai cité quelques versets, mais pas toutes. On va faire ça ensemble mercredi, parce que là, le temps est passé. Je vous encourage d'être là. Donc, l'équipe de louanges peut venir pour l'autre partie.
Toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. S'appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles.